La fête de la Transfiguration. Voilà, nous fêtons l'anniversaire du pape Paul VI, n'est-ce pas, qui est mort. Le pape Paul VI qui est mort le 6 août pour la fête de la Transfiguration. Et en même temps, la fête de la Transfiguration, c'est une fête extraordinaire pour nous, pour toute la terre, pour tous les chrétiens, c'est sûr. C'est pas une fête, c'est une fête lumineuse. C'est pas une fête tellement, c'est pas une colonne de la foi, la Transfiguration. C'est pas capital, mais c'est une porte qui s'ouvre. La fête de la Transfiguration du Seigneur ouvre une porte. C'est vrai, si un jour vous voyez par exemple un arbre ou une montagne ou un visage qui s'illumine d'une lumière fulgurante, ça vous ouvre les portes à la foi. Si dans le regard de quelqu'un vous percevez la lumière fulgurante de Dieu, il est bien évident que c'est une porte qui s'ouvre. La Transfiguration, c'est quelque chose comme ça. Ça donne une force très forte à Dieu lui-même pour donner tout son amour. C'est une porte que Dieu ouvre. Voilà. Mais comme aujourd'hui nous ne méditons pas autre chose que ce que signifie, n'est-ce pas, la Transfiguration, nous allons tout de suite rentrer dans la suite de notre quête, vous voyez, notre recherche, des jalons qui nous conduisent à la transformation totale en Dieu. Nous avons vu, hein, les fois précédentes, là, comment il faut arriver à trouver, à la manière d'un enfant, où se trouvait l'essence de l'âme. C'est très important. Où se trouve l'essence de l'âme? Parce que c'est avec cet œil spirituel particulier qui n'est pas l'âme, qui n'est pas le centre de l'âme, qui n'est pas l'intelligence de l'âme, mais qui est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus souterrain, beaucoup plus en dessous, beaucoup plus essentiel, beaucoup substantiel, quelque chose qui supporte l'âme. Et vous voyez, quand on regarde vers Dieu, ça, j'espère que ça, c'est la thématique, ça. C'est la thématique de l'oraison. On ne fait pas oraison avec son imagination. On ne prie pas avec ses caprices. On ne prie pas avec ses envies d'avoir une copine ou d'avoir un copain ou d'argent ou du loto. On ne prie pas avec l'envie non, on ne prie pas avec non plus ses idées, ses pensées, sa manière de voir Dieu. On ne prie pas avec son raisonnement. On prie spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, et si on veut avoir une relation réelle avec lui, qui ne soit justement du coup plus du tout une relation, mais qui vienne d'un seul coup une communion, alors à ce moment-là, il faut prier spirituellement. Et donc c'est ce que nous regardons depuis 4 ou 5 fois, et on avait regardé donc les premières fois comment on commençait à rentrer dans la transformation de l'esprit spirituel, de cette communion en Dieu. C'est la première demeure. Puis après, on avait regardé comment notre intelligence, petit à petit, contemplative, était attirée de l'intérieur, d'elle-même, à découvrir les mystères dans la lumière surnaturelle de la foi, et puis avec l'aide, c'est vrai, de l'esprit de science et d'intelligence, avec le Saint-Esprit, mais pour comprendre apprendre de l'intérieur, d'une manière savoureuse, étonnante, curieuse. Il y a quelque chose qui excite notre curiosité. Dieu devient quelque chose de passionnant pour nous. Deuxième demeure, et du coup, on aime cela. Et on passe à la deuxième demeure, et du coup, on découvre notre cœur spirituel, à travers précisément cette présence de Dieu qui, dans notre cœur spirituel, nous ouvre les portes du cœur pour qu'il puisse rentrer dedans. C'est la deuxième demeure, et c'est ce qu'on appelle les demeures de la prière pour les commençants. Donc nous étions tous tombés d'accord que, ici, à Notre-Dame de Domanova, il n'y avait que des commençants. Il n'y avait pas d'autres que des commençants. Donc on a beaucoup expliqué les pièges qu'il y avait dans la prière des commençants. Et Dieu sait qu'il y en a. La troisième fois, c'est-à-dire la dernière fois, je veux dire, dans la troisième demeure, on apprend le recueillement des puissances spirituelles. Toutes les puissances spirituelles, c'est-à-dire les sens de l'âme, ce qui supporte profondément, non pas nos impressions intérieures, mais ce qui est en dessous, substantiellement, cette substance, cette existence lumineuse, qui regarde, se joint à ce cœur spirituel qui s'est ouvert et qui a permis à Jésus de battre d'amour divin dans notre cœur. Il a pu frapper à notre cœur, on a pu lui ouvrir les portes, on a pu s'unir cordialement, affectueusement, et vivre affectueusement l'affectueux amour qu'il a pour le monde. Lui donner la permission, à travers notre cœur, d'exprimer cet amour au monde à travers nous. Deuxième demeure. C'est cet exercice admirable des deuxièmes demeures qui permet au bout d'un certain temps, quand ça devient un pli du cœur, un pli de la prière, 55 minutes par jour, n'est-ce pas ? Ce pli étant pris, il y a comme quelque chose de Dieu, quand on fait oraison, qui nous appelle au recueillement. Au recueillement. Faut pas trop vite croire que voilà, je me recueille. Parce que l'oraison, c'est le recueillement. Je fais taire le mental, je fais taire l'affectif, je fais taire le raisonnement, je fais taire la méditation, je fais taire la contemplation des mystères, je fais taire les amours, les ouvertures à l'amour, les inondations d'amour. Je fais taire tout ça parce que c'est pas l'oraison. L'oraison, c'est le silence. Alors, du coup, je vais me recueillir et j'enlève tout ça. Attention. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Il ne faut pas rentrer trop, croire trop vite qu'on est arrivé au quatrième demeure, n'est-ce pas ? Il y en a qui y croient. Il y en a qui croient à ça. Il dit, moi j'ai lu Sainte-Thérèse d'Avila et j'en suis à la sixième demeure. J'ai entendu ça. Des gens qui sont encore dans le péché mortel, n'est-ce pas ? J'en suis à la sixième demeure. Mais non. Mais non, pour rentrer dans la troisième demeure de la transformation, c'est un recueillement qui va, j'allais dire, plus loin, pas plus loin. De toute façon, c'est un progrès, c'est une croissance, c'est quelque chose qui nous unit, qui unit profondément, vous voyez, notre liberté, notre âme, notre vision de Dieu et l'amour de Dieu en nous, ensemble. Il y a quelque chose qui se recueille. On cherche à tout recueillir en un. Et du coup, c'est vrai que quelquefois, du coup, on peut arriver, c'est pas une question d'y arriver avec la force du poignet, vous comprenez. Mais il va nous arriver dans cette oraison pendant 55 minutes de pouvoir effectivement être très recueilli et en paix. Pendant 55 minutes de suite. Vous voyez ? Pendant 55 minutes de suite, il y a quelque chose de. Un apaisement, si je puis dire, que. Une humilité, une confiance, une tranquillité et un ruisseau tranquille d'amour que nous arrivons à nourrir tranquillement, sans forcer. Et c'est-à-dire que nous sommes capables, et vous voyez, que c'est le bon Dieu qui nous y aide, bien sûr, mais ce n'est pas lui qui le fait, c'est bien nous qui nous recueillons. Mais il nous aide, parce qu'il nous enveloppe, il nous habite de l'intérieur, et du coup ça fait comme une espèce de dilatation, de pression, qui fait qu'il y a une unité qui se fait, et cette unité s'appelle la simplicité. Notre raison devient de plus en plus simple. Je n'ai plus besoin de multiplier les affections, les regards, les supports à la prière. Non, je peux me recueillir. Et je découvre quelque part quelque chose de tranquille dans ma solitude vivante profonde. Et cette solitude vivante profonde, je suis capable de la joindre à l'essence de mon âme, qui auparavant, dans les demeures précédentes, regardait Dieu, regardait les mystères, méditait et se plongeait dans l'ouverture des portes à la présence de Jésus voulant aimer à travers moi. Donc nous avons vu déjà ça. Et après cette troisième demeure, parce que ça devient un petit peu habituel, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous fait rentrer dans la quatrième demeure. Cette quatrième demeure est la plus importante de toutes. C'est la plus importante de toutes parce que c'est à partir de la quatrième demeure, à partir de l'oraison de quiétude, comme on l'appelle, c'est à partir de ce moment-là que ce n'est plus moi qui vais me recueillir en Dieu, mais c'est Dieu qui me recueille en lui. Un petit peu, voyez, Sainte Thérèse d'Avila a cette petite comparaison qui est tout à fait jolie et que je trouve très extraordinairement facile à comprendre. Le petit oiseau qui cherche à monter dans son nid, voyez. Alors, première demeure, voyez, vous faites quelquefois, il y a ça dans les zoos aussi, on voit des oiseaux. Alors, vous avez une petite échelle avec trois échelons, comme ça, on voit le petit oiseau, hop, il passe sur la première échelle, première demeure, pop, il arrive à monter à la deuxième échelle, et pop, il arrive à monter à la troisième du recueillement. Alors, il y a une main qui sort, n'est-ce pas, comme un coucou, qui le prend et le place dans la nuit. C'est la quatrième demeure. Vous voyez, dans les trois premières demeures, c'est vraiment nous qui faisons tous nos efforts pour sortir du péché, pour sortir du relâchement tel qu'il existe dans le monde, le relâchement, la dilatation de l'orgueil, la transpiration de l'égoïsme, etc. La puanteur de l'impureté, etc. Bon, on a quitté tout ça, vous voyez, même dans nos pensées, évidemment. Alors du coup, à ce moment-là, ayant quitté tout ça, il y a l'humilité aussi, qui est une chose qui devient pour nous quelque chose de très essentiel. Quoi. On n'arrive plus à respirer l'orgueil en nous, hein, c'est impossible, on ne peut plus. Alors du coup, il y a cette main de Dieu qui nous prend et nous place lui-même dans le nid. C'est le nid de la quatrième demeure. La quatrième demeure, c'est très beau. Hein. C'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir... dans notre horizon, dans notre prière, quelque chose qui va faire que Dieu va se saisir du sommet. Vous voyez, cette fois-ci, c'est plus l'essence de l'âme, hein, mais du sommet de l'âme. C'est le sommet de la perception spirituelle et le sommet de l'âme qui ensemble sont pris par Dieu dans l'horizon, ils le captent. Saint François de Sales compare ça à ce fait que si vous mettez un aimant que vous avez essayé de ranger au maximum du mieux, vous voyez toutes les épingles qui sont tombées un petit peu en bas comme dans un jeu de Mikado, bon, et elles sont là, voilà, et vous avez passé les premières, deuxième et troisième demeures à essayer de les ranger en mettant, vous voyez, en mettant les têtes d'épingles du bon côté, pas, et d'un seul coup, Dieu il appuie sur le bouton et voilà, toutes les pointes se mettent sur l'aimant. Mais il n'appuiera jamais sur le bouton si vous n'avez pas tout rangé avant. Ça, c'est sûr. C'est pour ça, faire attention à ceux qui disent, moi, j'en suis déjà à la quatrième demeure au bout d'une semaine de baptême. Que dis-je, n'est-ce pas ? Sainte Thérèse d'Avila dit qu'elle a mis 17 ans Alors quand même. Bon, d'accord. Elle a pris son temps. Au début. Après, elle a couru très vite, parce que c'est ce diable qui t'a prise, n'est-ce pas? Mais faut faire un petit peu attention. Et donc, quelque part, c'est vrai. Attention, je ne veux pas dire par là que ça ne peut pas aller très vite. Ça peut aller très vite. On voit couramment des enfants qui ont 7 ans, qui ont 10 ans, et qui atteignent sans aucune difficulté la cinquième demeure. Donc, faut pas croire que c'est une question d'adulte. C'est une question, tout simplement, d'amour de Dieu. C'est la question de l'amour de Dieu. On se recueille. C'est Dieu qu'on aime. C'est lui. Et on voudrait qu'il nous prenne. Ce n'est pas du tout une question de maturité. Ce n'est pas du tout une question d'équilibre psychologique. Ce n'est pas du tout une question de culture. C'est pas du tout. Mais à un moment donné, c'est vrai, Jésus est tellement uni à nous que la lumière qui vient du ciel nous saisit des plus grandes hauteurs de notre âme. Et ce qui est extraordinaire dans l'oraison d'inquiétude, c'est qu'à partir de ce moment-là, la transformation qui va se faire à l'intérieur de nous ne sera pas du tout le même type de transformation spirituelle que celle que nous avions avant. Les transformations spirituelles que nous avions avant apaisaient notre colère, calmaient nos caprices ou nos envies, apaisaient notre imaginaire fertile, sacralisaient notre mémoire. Vous voyez, tout ça nous faisait comprendre enfin des trucs évidents, dissipait nos doutes, élargissait l'orgueil pour laisser placer la violette et le parfum d'humilité, donnait le goût de la virginité et la splendeur de la chasteté. Et puis, du coup, quelque part, la pureté, la profondeur et l'authenticité de notre cœur, de notre âme, pouvaient enfin commencer à ouvrir ses pétales. C'est-à-dire que, simplement, notre humanité, sous l'effet de la sève de la grâce des trois premières demeures, commençait à devenir vraiment humaine. Au lieu d'être un psy, mystico-dingo. Ah, on devient normal. C'est beau, ça. Alors, le Seigneur nous rend pur, nous rend humain, nous rend spirituel, nous rend profondément encore affectueux, profondément donné, avec quelque chose, une maîtrise, j'allais dire, une habitation de tout ce qui nous entoure, une disponibilité, un instinct à servir, vous voyez, à voir tout de suite où se trouve l'autre, vous voyez. Pas être dans son truc, foncer, sans voir les dégâts qu'on pourrait faire. Non, non, tout ce sens de l'autre d'abord. On devient humain, quoi. Ouais. Ça, c'est le. Il n'y a plus d'amertume, bon. Et d'un seul coup, on rentre dans la quatrième demeure. Vous voyez, il y a un minimum d'humilité, un minimum d'humanité. Le Seigneur, il a besoin d'un minimum d'humanité. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mettre dans le nid surnaturel un monstre. Et nous sommes tous des monstres, tant que le Seigneur ne nous a pas réparés. Nous sommes une nature du jus. Et l'orgueil nous a complètement possédés. Chacun voit son truc. C'est son truc. Et il est sûr d'avoir raison. Et c'est pour Dieu qu'il a raison, bien sûr. God me tous. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça en hollandais. Okay. Des dégâts extraordinaires. Non, on devient normal. Il n'y a plus de cruauté, de sadisme ou de masochisme. Parce que là aussi, pour pouvoir se centrer sur nous, c'est pas mal si quelqu'un me fait souffrir tout le temps. Je reste avec lui, il me fait souffrir. C'est super. Comme ça, je peux m'occuper de moi. Parce que je souffre. Faut faire attention, vous savez. faut pas rester dans le psychologique. Le psychologique, c'est la destruction de l'homme. Donc voilà ce que font les troisièmes demeures. Elles restituent une humanité normale, avec une certaine autonomie, voyez, avec une certaine patience, une humilité, un regard ouvert, une disponibilité, une humilité. Et l'abandon de toutes les théories hérétiques et fausses. Alors, lorsque Titoison est arrivé à ce troisième échelon, et qu'il fait oraison, hop, il est établi dans le nid de la quatrième demeure, c'est trop beau, c'est vrai, ça j'aime bien. Hop, hop, tout se rassemble dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se fait. Alors l'oraison de quiétude, comment ça se... Est-ce que vous comprenez la différence entre les trois premières demeures et ça y est, on rentre dans l'oraison d'union. Ça y est, on rentre dans la période spirituelle de notre vie chrétienne qui devient unitive et illuminative. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation et Jésus, dans sa grâce sanctifiante, dans les dons du Saint-Esprit et dans sa présence de Verbe de Dieu à l'intérieur de nous, commence à diviniser, non pas à naturaliser, à redresser la nature naturelle de mon corps, de mon sang, de mon âme, de mon esprit, de mon imaginaire, tout ça, de mon cœur, de mon intelligence, de mon raisonnement, tout ça. Ben non, pas seulement ça, mais à diviniser, à surnaturaliser, à transformer de manière théologale, surnaturelle, les, voyez, un petit peu comme on met d'un seul coup dans un filament l'électricité d'ampoule, mais la lumière. Ils divinisent. Nous devenons de plus en plus divins. C'est comme on le voit dans certains laboratoires, voyez, certains chimistes, ils attendent que l'eau distillée soit parfaitement distillée, parfaitement pure, avant de mettre un catalyseur. La quatrième demeure, c'est ça, c'est le catalyseur qui commence, et à ce moment-là, ouf, ça y est, la transformation de catalyse commence. La surnaturelle transformation, je vais commencer à devenir chrétien. Mais bon, le baptême, est-ce qu'il nous rend chrétiens? Non. Je le dis clairement. Et c'est le fruit du baptême qui nous rend chrétiens. Parce que le fruit du baptême, c'est l'union transformante. Donc si je vis du baptême sans vivre du baptême, c'est-à-dire sans faire oraison, je ne suis plus chrétien. Il n'y a plus de fruit du baptême. Alors, vous voyez, bon, bien sûr, hein, on en voit des gens, qu'est-ce que vous voulez, ils vont, ils arrivent à la communion, ils communient, ils s'en vont. Est-ce que c'est ça un chrétien? Bien sûr que non. Un chien le ferait. Allez, hop. Oui. Le Seigneur me pardonne. Et c'est pas ça qui fait un chrétien. Il vit des sacrements, c'est évident, puisque les sacrements sont la source de la transformation. Mais c'est la transformation qui fait le chrétien. Les sacrements, comme dit saint Thomas d'Aquin, sont des moyens. C'est des moyens indispensables. Sont des moyens nécessaires, sine qua non. C'est vrai. Il faut absolument un robinet. Je peux avoir un puits dans le désert. Mais si je ne vais pas puiser l'eau, je meurs de soif. C'est sûr. Alors je vais puiser l'eau dans l'oraison. Il n'y a pas d'autre moyen. Quelqu'un qui ne prie pas devient une terre totalement stérile. Et en plus, on devient laid. C'est vrai. Pas beau. C'est pas aimable, quoi. On n'est pas soi-même, quoi. Hein? On est... Alors, l'oraison de quiétude a quelque chose de très très spécial, très particulier. C'est que à un moment donné, parce qu'on aime ce recueillement, on s'y habitue, on y persévère. Ça fait trois demeures qu'on est sûr qu'on sera fidèle, qu'on persévérera, même si on doit mourir, on fera raison. On le sait, ça. On donnera toujours, chaque jour, un temps à Dieu. Et si le soir on ne l'a pas trouvé, c'est pas grave, c'est vrai, mais le lendemain, on reste fidèle à cette ligne de force. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Et le seul signe, c'est si j'ai fait oraison dans la journée. Il n'y a pas d'autre signe. Si j'ai pas aimé mon prochain, t'as pas aimé ton prochain, mais mon gros bêta. Comme si tu pouvais aimer ton prochain par tes propres forces. C'est une imagination. Autosuggestion. Je l'aime, il faut que je l'aime. Ah, je t'aime. Oui, tire-toi, d'accord. Et après, étonne-toi qu'il te file une gifle. Ah oui, je l'aime, si. Attends, c'est pas ça. L'amour vient pas de nous. Il n'y a pas d'autosuggestion, la méthode Coué. L'amour, c'est génial, l'amour, enfin. C'est une puissance, une force, une simplicité, une intensité. C'est sponsal, comprenez? C'est agréable. Et c'est pas forcé. Pourquoi? Parce que il y a une source. Mais si cette source, j'allais dire, je l'ai dégagé de mon âme, de mon cœur, je risque pas. Hein. Voilà pourquoi, pour moi, la prière est le choix que je fais de permettre à l'amour d'irriguer mon cœur. Et souvent, on se dit, les gens ne prient pas, ne font pas raison, c'est parce qu'il y a une certaine révolte contre Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu irrigue leur cœur. Ils ne le veulent pas. Ils en veulent à Dieu. C'est le suprême orgueil, ça. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est l'orgueil au sommet. Tu ne peux pas te faire plus orgueilleux s'il y a Lucifer. Lucifer et le chrétien qui ne prie pas. Je crois que c'est à l'égalité d'orgueil à peu près, quoi. Il y a une haine contre Dieu. Ne pas prier, c'est fou, quoi. C'est affolant. C'est invraisemblable. Alors, il y a quelque chose qui se passe extraordinaire dans l'horizon de quiétude, quatrième demeure. C'est que on se recueille, on donne ces 53 minutes de raison. La veille au soir, on a dit, Seigneur, demain, je voudrais vraiment tellement être entièrement en repos et que tu fasses, que ce soit toi qui fasses tout en moi. Que je sois transformé à l'intime de ton intime, comme l'intime de ton intime, vous voyez. Je voudrais tellement que ce soit ça. Et le soir, vous endormez en faisant cette supplication, parce que vous comprenez, vous rentrez. Si vous réalisez la prière d'oraison tranquille, toute donnée, toute abandonnée, toute persévérante, toute affectueuse, toute amoureuse, toute lumineuse aussi, hein, toute intelligente, vous voyez, les trois premières demeures, hein, c'est le Seigneur qui vous fait passer à la quatrième demeure, c'est pas vous. Et donc, il faut lui demander qu'à un moment donné, je puisse enfin trouver ce repos. Bon, je vais vous donner quand même une petite image pour vous aider, parce que, comme ici, nous ne sommes pas des intellectuels, il faut toujours donner des images. Alors, vous voyez, donc on va dans certains lieux de pèlerinage, et les gens vont, alors, et puis ils vont voir les prêtres, et puis dans certains lieux de pèlerinage. Et voilà, le prêtre bénit, et d'un seul coup, vous voyez ces gens tomber par terre. Alors, ils appellent ça là-bas le repos du Saint-Esprit. Pouf! Pouf! tombe par terre. Choc. Vous avez, peut-être que quelqu'un d'entre vous, quelqu'un a déjà vu ça, je ne sais pas. Et c'est, dans certaines assemblées, c'est quelquefois 3 personnes sur 4 qui tombent par terre. C'est pas un ou deux, pas un cinglé, etc., qui fait l'hystérique, vous voyez. Une fois, j'étais en Yougoslavie. Bon, on reçoit une bénédiction pour aller bénir les gens après la messe. Et il y avait un Henri, un ami à moi. Tu vois qui c'est Henri, toi, hein? Et un colosse, c'était énorme. Un colosse, la moustache ici, une tête grosse, ronde, il a fait plusieurs fois la prison. Il était... Bon, moi j'aime beaucoup, et tous ses fils sont en prison. Enfin, vraiment, un bel atavisme. Hein. Et puis, il était quand même, il était dans l'église. Et ça faisait 6-7 ans qu'il venait là, et il venait là pour se moquer. Je me disais, mais quelle bande de crétins, regarde, c'est tous des hystériques au dingo, c'est des mollusques, c'est des fous.
Arrêtez pas.
Alors, et là, et ils vont me faire croire quoi, et qu'est-ce que je rigole, qu'est-ce que j'éclate de rire. Alors, j'arrive, je descends donc à la fin de la messe avec les autres prêtres, parce qu'on était une quinzaine, je descends, et puis on nous dit, bon, ben, ceux qui vous demandent une bénédiction, vous leur donnez la bénédiction avant de sortir de l'église. Très bien. Alors, et là, je le vois vers le fond de l'église, en train de... Déjà, tout bedonnant de ses blasphèmes, de ses machins. Il priait, hein. Ça lui arrivait de prier. Ça lui arrivait. Tiens, je vous salue Marie, il priait. C'était pas tout à fait les premières demeures, c'était encore avant, mais. Il priait. Oh, je vois dire, Henri, tu es là, tu te rends compte. Il faut qu'on se trouve en Yougoslavie, quoi. Alors, tu es là, Henri, il dit. Ah, bah, tu vas être le premier que je vais bénir. Alors, il dit. Bon, comme ça. Avec ses yeux glauques. Charmant, un garçon charmant. Et c'est 120 kilos, n'est-ce pas? Je crois que je l'ai dépassé qu'une seule fois. Et puis, je le bénis. Je dis, bon, ben, que le Seigneur te bénisse. Mais au moment où je le bénis, il s'est soulevé de... Il m'a regardé comme ça. Ah, des yeux. Il ne pouvait plus parler, d'ailleurs. Ses yeux sont sortis comme ça. Et il voulait dire, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Il ne le disait pas avec sa bouche, hein, mais c'était ça que ça voulait dire. Qu'est-ce que tu me fais? Il s'est soulevé de 3 cm et... Il est tombé par terre, comme un sac de patates. Et il est resté là. Personne n'a pu le soulever avant 20 minutes. Alors tous ses amis, etc., qu'il avait entendu pendant 5-6 ans, parce que lui était chauffeur, ça lui rapportait un petit peu. Pour ça qu'il était là. Alors, il était là. Il est tombé. Alors, quand vous êtes tombé dans ce qu'on appelle le repos du Saint-Esprit, est-ce que c'est ça l'horizon de quiétude? Vous avez tous compris que non. Mais c'est quand même ce qui arrive à ces gens-là, c'est quoi? Bon, c'est au passage que je vous dis ça. C'est d'abord un avertissement de Dieu. Tu ne fais pas oraison. Donc c'est facile. Si vous allez dans ces assemblées et que vous voyez quelqu'un qui tombe, c'est qu'il ne fait pas oraison. Très simple. Si vous avez atteint la 4e demeure, je vous affirme, vous ne pourrez jamais tomber. Jamais. Mais si vous n'êtes pas arrivé au 4e demeure, je vous affirme que vous ne pourrez pas ne pas tomber. C'est très humiliant. Alors, souvent, les gens, quand il y a certaines personnes, ils disent « Oh, je suis pas tombé, toi t'es tombé, pas moi. » Mais j'ai une grosse bécasse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on est là, premièrement, c'est un avertissement. Deuxièmement, c'est une grâce, bien sûr. Parce que d'un seul coup, sans aucun mérite de votre part, par un miracle et par une intervention angélique, il se produit à l'intérieur de vos puissances, du sommet de l'âme et de l'essence de l'âme en même temps, un recueillement, c'est tous les aiguilles de Saint François de Sales qui se mettent en vous, hop, et toutes vos puissances, votre capacité de faire un mouvement comme ça, votre puissance végétative, vos puissances imaginatives, vos puissances de mémoire, vos puissances de compréhension, vos puissances affectives, tout ça, sont immobilisées. Vous ne pouvez pas produire un acte par vous-même. Tout est immobilisé en Dieu, dans la présence justement celui qui vous récapitule et qui vous fait tomber, vous met dans un nid de manière miraculeuse par médiation angélique. Mais il vous met en tout cas, troisièmement, comme une prophétie. C'est une prophétie. Il dit désormais, sache que quand tu feras la prière, c'est comme ça que tu dois être quand tu fais oraison. Pour me laisser faire. Et que ce soit moi qui bénisse. Et que ce soit moi qui parfume. Tu sais, quand tu viens dans le repos, comme quand dans l'horizon de quiétude, tu entends tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu es parfaitement conscient de tout. Tu n'es pas du tout endormi. Ils ne sont pas dans le coma. Il paraît que même dans le coma, on entend. Mais ils sont. Ils peuvent être tristes de ce que disent les gens autour, ou joyeux, vous voyez. Mais en tout cas, une passivité toute attentive, une perception centuplée, vous voyez, sur le plan de la vie intérieure. Et donc le repos du Saint-Esprit est là comme une image, vous voyez, c'est ce charisme qui vient. C'est comme une image pour faire comprendre ce que c'est que la quatrième demeure et la cinquième demeure. Parce que dans la quatrième demeure, c'est, ce n'est pas toutes les aiguilles qui sont rassemblées sur l'aimant, c'est les clous principaux, vous voyez, les aiguilles les plus fines, les plus délicates, si vous préférez. Les aiguilles les plus délicates, c'est-à-dire les plus fine pointe spirituelle de votre vie humaine. La perception spirituelle supérieure, la perception amoureuse des profondeurs et la liberté substantielle qui est en dessous de votre âme. Ça, Dieu les prend en main. Dieu les prend en main, mais déjà vous pouvez continuer, vous continuez à penser à la vaisselle, vous continuez malgré tout, vous faites oraison, mais vous êtes quand même fixé en Dieu. Dieu vous a fixé en lui. Et puis, il fait monter sa sève surnaturelle et intime dans votre cœur spirituel, dans votre liberté spirituelle et dans votre essence spirituelle, ainsi d'ailleurs dans votre existence profonde. Il vous divinise. Mais les parties périphériques, c'est-à-dire vos réflexions, vos pensées, vos blessures, vos caprices dont on a parlé, il en reste encore un petit peu, ils ne sont pas tous anéantis, il en reste encore quelques petits morceaux, restent encore là, vous voyez. Et c'est tellement délicat, la prise de possession de Dieu dans l'horizon de quiétude, tellement délicat, tellement fine, que elle se ressent à peine. Elle ne se ressent pas, si je puis dire. Et puisqu'elles sont prises par Dieu, et que les autres puissances, l'imagination, la mémoire, les concupiscences, les passions, etc., sont libres, alors, du coup, c'est l'occasion, la période dans laquelle vous êtes dans la transformation chrétienne, lorsque vous êtes au quatrième demeure, c'est l'occasion pour vous de devenir entièrement purifié dans les autres puissances de l'âme pour qu'elle aussi puisse être absorbée par Dieu, captée par Dieu dans une union parfaite. Ce sera les cinquièmes demeures. Mais de cette quatrième demeure au cinquième demeure, il va y avoir des purifications. Vous avez vous-même tous entendu dire que, à partir du moment où on s'est en raison, on rentrait dans une purification, dans la nuit aquoisée de l'âme. Et on rentre dans une sécheresse, quelque part, une aridité, et le démon se jette sur vous, à certains moments aussi, se jette sur vous avec une cruauté infatigable, espérant ainsi vous décourager pour que vous n'alliez pas jusqu'à l'union parfaite de la cinquième demeure. Il va y avoir dans ce qu'on appelle, dans le langage courant, la purification passive des sens, la nuit de la sensibilité, la purification passive des sens. Voilà, la nuit passive du concupiscible, la nuit, la purification passive de l'irascible. Oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Et on est en même temps divinisé dans les parties très délicates, spirituelles, pures, qui font notre personne, notre autonomie, notre force, notre humanité profonde et indéracinable à partir de là. Hein. Et en même temps, vous voyez, en même temps, il y a une période. Sainte Thérèse d'Avila a une autre image pour ça, ou Saint Jean de la Croix, je ne sais plus lequel. Il dit voilà, dans les trois premières demeures, vous êtes comme une bûche. Une bûche, voilà, vous êtes une belle bûche, vous la mettez au soleil, elle sèche, elle rutile, elle lumine, elle est, voyez, elle se prépare, vous la frottez, vous la lavez, vous la soignez bien votre bûche, hein, pour que ce soit pour Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, et bien, et puis d'un seul coup, le Seigneur la prend et la met dans le feu. Quatrième demeure. Dans le feu. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Le feu, vous savez très bien ce que fait le feu, c'est que la première chose qu'il fait, autant qu'il peut, c'est de chauffer, bien sûr, premièrement. Deuxièmement, il atteint la sève crépite, et puis ça barre. La bûche barre, ça fait comme des champignons, ça fait comme ça, puis après ça devient noir, puis ça se mauvais. Tout ça! Ça, elle paraissait finalement pas si moche que ça, la bûche! Moi, si tout le monde était gentil comme moi, patient comme moi, fidèle comme moi, je dirais bien, la bûche est pas mal, je suis à peu près propre. Bon, d'accord, je me laisse faire de temps en temps, mais enfin, ça va. Oui, mais le péché mortel, tu vas en enfer. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas vraiment péché mortel, parce que j'aime pas ça non plus. D'accord, ok. Alors, mais pof, tu la mets dans le feu. Ah oh oh. C'est extraordinaire, ça. Là, c'est génial. C'est génial. J'espère que je vais retrouver le passage. Ça, vous allez vous reconnaître parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e demeure que tout se fait dans la première année, allez hop, c'est première demeure, deuxième année, troisième, non. Non, il y a des passages à la 4e demeure dès le début. Parce que surtout si on fait oraison avec Marie, ça c'est le secret, ça. Hein. Je vous l'ai peut-être pas encore dit, je crois. Si on fait oraison avec l'Immaculée, que c'est elle qui fait oraison à travers nous, vous inquiétez pas. Il y a un petit morceau de quatrième demeure, un morceau de cinquième demeure, un petit morceau de... Elle harmonise. Mais c'est vrai que le centre de gravité reste la première demeure pour les commençants, mais... Il y a de la quatrième demeure aussi. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé le temps d'un « Je vous salue Marie » que vous en recueillant. Oh vous ne savez pas si ça a duré... Vous sentez bien que vous êtes entièrement recueilli dans la paix et la présence de Dieu. Vous n'avez rien senti, si vous voulez, mais c'est sûr que vous avez été pris par Dieu. Et ce n'est pas de vous. Besoin d'un credo, vous voyez. Alors, j'espère que je voudrais bien trouver ça, ce petit passage, parce qu'il fait du bien, n'est-ce pas? Ah, je vous prie de m'excuser, j'aurais dû le photocopier, comme ça j'aurais moins perdu de temps. Bon, remarquez, on n'a pas besoin de livres. Hein. Intérieurement. C'est une grossièreté incroyable, mais c'est comme ça que du coup, là, elle fait raison, elle ressent plus rien. Du coup, elle s'imagine qu'elle ne croit rien. Et oui, puisque Dieu prend tout. C'est lui qui agit. Du coup, désormais, c'est plus son recueillement, c'est le recueillement de Dieu en elle. Et du coup, elle est saisie. Et du coup, ça produit une sécheresse sensible. Dieu soit béni. Une aridité. Il n'y a plus de plasma. Il n'y a plus d'énergie lumineuse. Il n'y a plus de voyage astral. Il n'y a plus d'ouverture chakra. Et du coup, elle doute des tentations terribles contre la foi. Contre l'espérance, puisque du coup, il n'y a plus de consolation, plus de vision, plus d'apparition, plus d'odeur suave, plus de chaleur merveilleuse. Plus de compréhension satisfaisante et apaisante pour l'esprit. Alors du coup, elle a des doutes contre l'espérance. Privée de consolation, elle se croit abandonnée, tentée d'ennui et de découragement. Elle a des tentations terribles contre la chasteté, parce qu'alors se manifeste l'ange de Satan ou l'esprit de fornication pour tourmenter par de fortes et abominables tentations. Je vous ai dit que l'imaginaire restait libre. Par des représentations très vives, ce qui est, pour ceux qui en sont l'objet, une douleur pire que la mort. Quatrièmement, des tentations terribles contre la patience. Au milieu de tous ces ennuis, oui, les gens ils sont tentés d'arrêter leur raison. Hein. Au milieu de tous ces... contre la patience, au milieu de tous ces ennuis, tous ces... toutes ces souffrances de purification du concupiscible et de l'irascible, on est enclin à murmurer contre les autres et contre soi-même. Et même des pensées de blasphème, n'oubliez pas que Saint-Thérèse d'Enfant Jésus, pendant un an et demi, était obligée de se fermer la bouche en se pinçant avec les doigts pour qu'il n'y ait pas de blasphème qui sorte de sa bouche. Purification, c'est pénible hein, pour quelqu'un qui aime Dieu. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, d'accord. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est très, très, très pénible. Qui se représente à l'imagination d'une façon si vive, des pensées de blasphème se présentent à l'imagination d'une façon si vive que la langue paraît en prononcer les mots. On a vraiment l'impression quoi, qu'on est démoniaque. Ouais, c'est la bûche qui devient un crapaud. Puis en plus, ça sent mauvais, c'est noir. Les tentations contre la paix de l'âme, obsédé par mille scrupules et perplexités, ils s'embrouillent tellement dans leurs idées qu'ils ne peuvent plus suivre un conseil ni céder à un raisonnement. On arrive tout part à volo. Mais en même temps, dans leur inquiétude, c'est pas tout le temps, 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 des tentations démoniaques. Heureusement, il y a aussi des sécheresses paisibles, une aridité paisible qui fait que je fais oraison, mais il y a un recueillement silencieux qui est là. Je m'efforce quand même d'être tout à Dieu et je vois que ça se fait tranquillement quand même. Même s'il n'y a aucune consolation, aucune révélation, aucune découverte surnaturelle, nouvelle, etc. Et puis enfin, il peut y avoir aussi quelques manifestations. Mais il peut y avoir aussi d'autres types de purification. L'âme, l'intérieur de celui qui prie dans l'horizon de quiétude est éprouvé aussi à l'extérieur, du côté des hommes. Des gens athées qui ne croient pas et qui les abreuvent de toutes sortes de persécutions les plus incroyables qui soient, à croire même qu'ils ne sont pas des êtres humains normaux. D'ailleurs, un mécréant, c'est forcément pas un être humain normal, hein, de toute façon. Deuxièmement, mais aussi de la part des prêtres, des supérieurs et même des amis. Qui trouvent toujours des poux, qui ne comprenant pas la personne dans cet état, bon, sont mal impressionnés par cet état, et puis vous jugent comme étant quelqu'un à enfermer. Parfois même de la part de votre confesseur, qui au lieu de vous consoler en disant c'est normal, par la purification passive, c'est tout. C'est rien, c'est super, c'est drôlement bien. Au lieu de vous dire ça, exaspéré, confond votre situation avec un état de tiédeur. Vous êtes tiédard, c'est pour ça, vous n'êtes pas assez de ferveur, c'est tout, et puis il vous critique. Il vous engueule. Et il vous attrape. Mais et en plus, les événements qui vous tombent dessus. Alors il y a des gens, des gens qui viennent me voir, c'est terrible, est-ce que j'ai pas reçu par hasard une malédiction du voisin? Une malédiction parce qu'il ne m'arrive que des malheurs. Que des malheurs. Il n'arrive que des malheurs. Il y a forcément un sorcier quelque part. C'est vrai, va-t'en, et puis, ouais, le médecin, la grand-mère aussi, et puis ma belle-mère, il m'arrive que des malheurs, ma voiture qui tombe en panne 3 fois par semaine, le moteur qui coule, etc. Mais vous voyez, on est victime de maladies étranges, déconcertantes, qui déconcertent même le médecin. On ne réussit plus comme avant. À cause de l'impuissance dans laquelle on se trouve. Le travail, ça marche plus. Le patron qui vous casse les... Bon. Alors du coup, on est tellement secoué de tous les côtés qu'on en devient hébété à tel point que les autres s'en aperçoivent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On subit quelquefois des pertes aussi d'argent. Inattendues, etc. Vous voyez? En un mot, il semble que le ciel et la terre soient ligués contre nous. Non, je sais bien que ça n'est encore jamais arrivé à personne ici, puisque vous en êtes seulement en première demeure. Mais, comme vous vivez l'horizon avec Marie, il y a un peu de ça de temps en temps. C'est trop bien, hein? Bon. Ça a un très gros avantage, cette purification de la quatrième demeure. D'abord parce qu'elle est apaisante, contrairement à ce qu'on croit. Elle est apaisante parce que du coup, on reconnaît qu'il n'y a rien qui peut venir de nous. Et là, on le voit bien. Hein. Et que vraiment, si quelque chose peut venir, ça ne peut venir que de Jésus. Hein. Et qu'on ne dépend que de lui. On n'a plus du tout peur de l'enfer parce qu'on sait qu'on l'aime. On a seulement peur, comme dans la transfiguration Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, ils avaient peur de bouger parce que peut-être que s'ils avaient bougé, ça allait faire disparaître la nuée, la gloire, la suavité de la transfiguration. Peur de bouger, oui. Peur d'y mettre un petit peu de soi. Parce que sinon, c'est plus Dieu qui se. Oui, on va avoir la crainte de Dieu. Ça s'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas... Ah, j'ai peur de Dieu. Non, c'est... Non, non, j'ai peur d'y mettre de moi parce que Dieu, c'est tellement... Tu dis que... Il n'y a que lui. C'est la seule chose qui compte dans ma journée, c'est le raison. Là, au moins, je n'ai rien de moi. Je commence donc à être très sensible à une humilité qui va beaucoup plus loin que l'humilité humaine. Puisque c'est une humilité qui vient de l'Esprit Saint, d'une passivité d'amour. Il ne met rien de lui-même parce que tout vient de l'amour du Père et du Fils. Il y a ce souci, vous voyez. Mais s'il y a une distraction, s'il y a une pornographie pendant l'oraison, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Passe. S'il y a une... Vous voyez, on est recueilli en Dieu, on sait, on voit, on veut, on vit la différence qu'il y a entre ce que Dieu est en train de faire et ce que je vis psychologiquement, ce que je vis imaginativement, ce que je vis mentalement. Il peut très bien avoir une oraison très pacifique de l'âme, dans l'oraison de quiétude, et en même temps des trucs complètement dingues dans votre imagination. Mais vous, vous êtes fidèles. Le démon en aura vite marre, vous savez. Très vite marre. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas quelqu'un qui reste dans cette paix profonde du recueillement et qui laisse Dieu agir en elle, tandis que lui, il la travaille dans tout ce qu'elle ressent. Il ne supporte pas ça. Ça le brûle. Alors du coup, grâce à ça, vous êtes désarmé, mais en étant désarmé, vous désarmez aussi toutes les capacités du démon de venir vous habiter et de venir trouver en vous une complicité. Et vous devenez humble, parce que vous savez que rien ne peut venir de vous, mais que de Dieu, c'est tout. La quatrième demeure, c'est l'état normal d'un chrétien. C'est l'état normal d'un chrétien. Un chrétien normal devraient être dans l'horizon de quiétude. Voilà pourquoi, quand ils font des pèlerinages, ils tombent par terre et le Seigneur leur fait leur reproche. C'est l'état normal du chrétien. On doit faire raison, mais c'est vrai que ça dépend de la grâce gratuite de Dieu qui, quand il le veut, nous recueille en lui. C'est extraordinaire, vous voyez, parce que c'est vrai que Jésus, avec ses sacrements, avec la Sainte Vierge, avec notre gardien, avec la foi, avec l'espérance, avec les torrents de la grâce sanctifiante, avec la charité, le feu qui brûle le cœur de Jésus, vous voyez, tout ça, c'est les trois premières demeures, avec cette solitude profonde qui nous introduit en Dieu. C'est merveilleux, vous voyez, cet oiseau qui monte. Mais à un moment donné, c'est magnifique, la quatrième demeure, c'est ce qui fait l'essentiel, la substance du baptême que nous avons reçu, c'est que nous sommes transplantés d'un seul coup dans l'intérieur de la très sainte Trinité, du dedans profond de notre âme. Alors il y a l'écoulement du ciel qui vient d'en haut, qui saisit nos profondeurs intérieures pendant que la bûche brûle. C'est ça qu'on reconnaît un chrétien, vous savez, c'est que si tu aimes, malgré les contradictions, tu
restes en paix malgré les contradictions. Et tu aimes malgré les contradictions. L'amour est victorieux de n'importe quelle injustice. Si quelqu'un ne supporte pas l'injustice, c'est pas bien. De toute façon, il ne s'agit pas de la lâcheté, hein. On n'a pas dit ça, hein. La lâcheté, c'est un vice. Abuser l'animité, c'est un vice. Non, j'ai pas dit ça. C'est que l'amour est très intense et très paisible face à une injustice. Vous voyez ? Saint Jean de la Croix dit la condition pour rentrer, que le Seigneur attend de nous pour rentrer dans la quatrième demeure, qu'elle vous fasse penser à la situation d'un petit oiseau, décidément. Un petit oiseau aussi aux pattes est accroché des fils de fer, des cordes, ou des fils extrêmement fins. Quoi que ce soit, il ne peut pas s'envoler. À un moment donné, il est arrêté en plein vol et il ne peut pas continuer. Il faut donc couper tous les fils. Les gros, les menottes, ça c'est les péchés mortels, des gros péchés, des péchés véniels, n'est-ce pas ? Et les petits fils. Les petits fils qu'il faut couper, les derniers fils qu'il faut couper. Moi, je suis quand même attaché à Christophe. Ah oui, oui, je suis quand même attaché à Domanova. Hein ? Je suis attaché à la télé. Je ne peux pas imaginer que la télé soit dans la cave. Je suis attaché au vin. C'est un petit fil. Non. J'aime le vin, mais je ne suis pas attaché au vin. J'aime Domanova, mais je ne suis pas attaché à Domanova. Vous voyez ? J'aime Mère Teresa, mais je ne suis pas attaché à Mère Teresa. J'aime ma fille, mais je ne suis pas attaché à ma fille. J'aime le Sacré-Cœur, mais je ne suis pas attaché à la statue du Sacré-Cœur. Je l'aime, c'est vrai, j'ai reçu plein de consolations. Mais je ne suis pas attaché. On a des attachements. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? On a des attachements. Et justement, la quatrième demeure, c'est ça que va faire la troisième demeure. Petit à petit, on va dire au Seigneur, moi, je suis prêt à abandonner cet attachement. Je perçois que je suis attaché à tel, je suis attaché à une œuvre. Il y a des gens qui sont pénibles pour ça. Moi, je suis... Bon. Eh oui. Les gens qui sont tellement attachés aux œuvres qu'ils font pour le Seigneur, vous savez, que c'en est imbuvable. Ah, c'est pour le Seigneur, d'accord, c'est pour le Seigneur. C'est leur truc, hein, ça c'est certain, c'est leur truc. Mais qu'est-ce qu'ils sont attachés ? Mais est-ce qu'ils pourraient être attachés un petit peu à ce que le Seigneur fait ? Il faut se détacher, vous voyez ? Il faut se détacher du Seigneur, moi. Donc, on commence à avoir le sens de l'humilité, de l'obéissance, vous voyez ? Parce que ça, sinon c'est impossible de rentrer dans la quatrième demeure, et encore moins dans l'union des cinquièmes, l'union parfaite, l'union, l'horizon d'union. Et donc la transformation chrétienne, la transformation surnaturelle de toute notre personne, avec tout ce qu'elle implique, ne se fait pas. On ne va pas être divinisé. On ne va pas être surnaturalisé. C'est extraordinaire quand on est surnaturalisé. Pour reconnaître, écoutez, quoi. Franchement, c'est génial. Quoi. Quand c'est plus votre cœur, mais que c'est le cœur de Jésus qui aime dans votre... En vous, là. Quand c'est plus l'essence de votre âme, mais c'est l'essence de Dieu qui... Et vous le voyez, hein. Faut pas dire que vous le voyez pas, hein. C'est l'essence même de Dieu qui... excuse. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut nous faire des fils de Dieu. Il nous voit comme son fils, qui est Dieu lui-même. Il nous voit comme ça si nous sommes baptisés et que nous vivons une union transformante dans l'union parfaite avec le Christ. Mais si je suis attaché à quelque chose. Et c'est là que Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. C'est celui qui... Voyez, c'est celui qui s'aime soi-même, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est pas qu'il faut haïr son père et sa mère, c'est pas ça. Il faut aimer, parce que Dieu aime. Mais il faut que ce soit un amour infini. Il faut que ce soit un amour humain, ouvert à la puissance infinie éternelle de l'amour. Et donc, il faut être détaché. Parce que si vous êtes attaché, Dieu ne peut plus rien faire. Dieu ne peut pas bénir. Et ça, vous le voyez quand la bulle tombe dans le feu. Parce qu'à ce moment-là, ça crépite de tous côtés. Vous voyez à quoi ressemblait votre amour. Là, vous le voyez. Là. Au moins, les choses sont claires. Mais d'où vient cette haine-là? Moi, je vous assure, je peux vous le dire personnellement, j'ai eu au noviciat. Non, c'était plus que le noviciat, j'avais déjà fait profession religieuse. Donc c'était trop tard. Ça a duré 2 ans, la purification de mon irascible. 2 ans. J'en tremble encore aujourd'hui de frayeur. Je vous assure, c'est pas drôle. Mais on sait en même temps. En même temps, on le sait, et on est content. Parce qu'on sait ce que c'est. Et donc, on est content parce qu'on sait que désormais, c'est fini. On est définitivement acquis à Dieu. Vous voyez ? Donc, on ne fait plus attention à ce qui... Le ressenti devient pour nous la clé du mensonge. Là, on n'a pas besoin de nous faire un dessin. Et ce n'est pas une théorie. La vérité vous rendra libre. Mais tant que la grâce et votre cœur ne s'est pas réveillé dans le baptême, on peut toujours se faire illusion sur le ressenti et se croire arriver au 6e demeure. Est très apaisante. Elle est dure, hein? C'est très apaisant. Parce que là, on arrive, on le sait, qu'on est en sécurité. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Et que désormais, c'est certain, nous irons jusqu'au bout. La sainteté a commencé. Vous voyez ça, c'est trop beau de voir que le Seigneur nous a fait cette grâce-là. On devient vraiment un membre incarné, vivant, Jésus vivant. Fait que bon, ben. Le centre de gravité de notre prière va de plus en plus s'engloutir dans cette passivité infuse de l'action divine. Nous restons de plus en plus passifs
C'est un petit peu comme le Saint-Esprit, qui est une passivité d'amour, vous voyez. Parce que quand Dieu, de l'intérieur, se repose dans un amour total en Dieu, pour disparaître totalement dans cet amour en Dieu, Dieu reposé en Dieu, vous vous rendez compte comme c'est beau, oui. Cet abandon total qui fait que Dieu est entièrement, passivement, éternellement, infiniment amour. C'est l'Esprit Saint. Cette passivité nous donne le goût du Saint-Esprit. C'est une passivité, vous voyez, c'est une oraison de passivité substantielle, essentielle. L'essence de notre âme, les sommets de notre esprit, les pointes les plus délicates de notre cœur sont entièrement rassemblées dans cette passivité où Dieu se repose dans un amour infini. Tandis que au sommet, là-haut, il y a l'écume de la tempête et de la mer, mais de plus en plus, notre centre de gravité est en Dieu. Il s'est déplacé. On est devenus des fils d'hommes et des fils de Dieu. Nous sommes devenus normaux. De la nature déchue, nous sommes rentrés dans une nature de grâce. D'une nature ténébreuse et ouverte à tous les éléments, nous sommes rentrés dans une nature recueillie, humaine, pleine de grâce et enracinée de l'intérieur dans le ciel. Et je vous assure que ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on peut rester dans l'horizon de quiétude. Certains auteurs disent combien de temps ça dure, l'horizon de quiétude. Oui, toujours pareil. Combien ça peut durer? Moi, je voudrais aller quand même jusqu'à la 5e demeure. Parce que mon père, ça fait 10 ans que je fais raison, c'est vrai, l'horizon de quiétude, c'est vrai, c'est ça beau, mais j'ai encore pas éprouvé la 5e demeure. Mais si vous avez éprouvé la 5e demeure, moi je crois, la 5e demeure, vous savez, c'est quand l'union est parfaite. Et que c'est pas seulement les aiguilles d'or qui sont rassemblées sur les mains, mais aussi toutes les aiguilles, toutes les autres aiguilles de l'imagination, tout est entièrement recueilli, centré, plongé en Dieu, dans une union parfaite. Et alors, ici, c'est du coup toute votre personne qui est engloutie entièrement en Dieu. Et Dieu vous a pris tout entier. Voyez ça, on verra ça à la 5e demeure la prochaine fois. Ça n'arrive qu'une fois, ça. Parce que Dieu ne fait jamais ça deux fois. Mais quand ça vous est arrivé, vous ne pouvez pas douter une seconde que ça vous soit arrivé. C'est l'horizon de quiétude au centuple, si vous voulez. Mais Dieu est passé, c'est lui. Mais alors attention, parce qu'on va passer de la purification de la sensibilité à la purification de l'esprit. Mais c'est trop beau, c'est vrai. Alors, combien de temps? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide, vous savez, si on est fidèle. Vous connaissez bien la parole de Sainte Thérèse d'Avila, si on est fidèle à l'oraison, donnez-moi quelqu'un qui fait oraison, en 9 mois j'en ferai une sainte. 6e de demeure. Donc normalement en 9 mois, c'est bon, hein. Si vous y mettez toutes vos billes. Ben oui, mais certains auteurs comme disent plutôt, écoutez, d'après témoignage des saints, parce que vous lisez Sainte Thérèse d'Enfant Jésus par exemple, hein, journal d'une âme, ordinairement une âme fidèle, c'est un à deux ans, moi je dis, personnellement, je dis quelqu'un qui fait oraison de quiétude et où la vie surnaturelle a commencé. Si, bien sûr qu'il y a beaucoup de purification, nous avons beaucoup péché. C'est vrai qu'il va y avoir des purifications, le démon a un certain nombre de droits sur nous à cause de nos fautes personnelles. On s'est plongé dans la fange, qu'est-ce que vous voulez? Et il va falloir que la bûche crépite un peu quand même. Bon. Normal. Non, je sais qu'en une semaine, ce soit terminé. Bon, on se calme un peu quand même. Bon. La grâce respecte la nature. Alors, c'est vrai. Au purgatoire, c'est ce qui se passe. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas passé par là, au purgatoire, il voit ça, mais comme il n'a pas de corps, comme il n'a pas de sang, comme il n'a pas de chair, comme il n'a pas... sa liberté n'est pas incarnée, la souffrance de purification est évidemment multipliée au centuple. C'est normal. Au purgatoire, c'est terrible. Ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on répare ce qu'on a fait dans le péché. C'est normal. Mais bon, quelqu'un qui n'a pas été... qui n'aurait pas été trop vicieux, disons. Tu vois, ni apyrocal, ni sadomasochiste, ni pédéraste, ni rien. Bon. Hein? Bon, comme certaines personnes. Lui, par exemple, toujours parfait. Bon. Alors, à ce moment-là, bon, les auteurs disent, vous voyez, Sainte-Thérèse de Jésus, elle estime environ 200. Mais quelqu'un qui ferait oraison, mais je veux dire qui vraiment veut donner toute sa vie à Jésus. Il veut être chrétien à fond. Il veut vraiment faire la volonté de Dieu. Il veut être dans une obéissance totale au Saint-Esprit, au prêtre, à l'évêque, au pape. Il veut vraiment être un membre vivant de Jésus. Il veut être disciple, vraiment. Quarante jours. C'est le bon Dieu qui décide en fonction de notre disposition. Parce que Dieu respecte infiniment notre liberté. Seigneur, je veux bien être purifié, mais pas trop, et pas tout de suite. Bon, je veux bien être détaché de ça, mais dans 3 ans, parce qu'il faut encore que je finisse ça. Etc. Alors, 3 ans après, Seigneur, encore 4 ans parce que j'ai trouvé une autre idée.